Sud Radio, les clés d'une vie, 13h20, 14h, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous avez fait de votre vie un jeu avec les mots et avec le public, mais vous avez aussi parfois joué avec votre vie sur des circuits que vous avez quittés pour prendre avec succès un nouveau virage. Bonjour Stéphane de Grotte.
Bonjour, merci de m'accueillir.
C'est une joie de vous accueillir parce qu'il y a toute une actualité sur vous avec une pièce à la Renaissance dont on va parler, mais surtout un parcours étonnant qu'on va évoquer comme chaque jour dans les clés d'une vie à travers des dates clés. Et la première que j'ai trouvée, Stéphane de Grotte, c'est le 2 mai 1999. Ça vous dira rien, c'est un micro-trottoir dans Mon auto et moi pour votre première télé en France où vous interrogez les gens dans la rue à propos de la roue de secours mais avec un faux anglais.
Ah oui, je me souviens de ça, oui. Oui, en fait, au début, j'allais chercher des copains qui avaient une caméra, un micro, pour essayer de mettre quelque chose en boîte, parce que j'avais aucune connexion avec personne. Et donc, j'ai fait ça, oui, je me souviens.
Et c'était délirant, parce que les gens ne comprenaient pas, vous parliez avec un patois, un faux anglais, enfin, c'était délirant.
C'était n'importe quoi, oui. Mais au début, je rentrais par la fenêtre, par la cheminée, pour essayer de me faire entendre, pour essayer de me faire voir. Donc j'en ai fait pas mal, des trucs comme ça, oui. C'était un long parcours.
Le parcours du combattant. La roue, justement, ça vous concerne, car vous avez été pendant près de 20 ans pilote professionnel, ce qu'on ne sait pas beaucoup, Stéphane de Grotte.
Oui, en fait, moi, quand j'étais adolescent, je rêvais d'être pilote de course, je rêvais d'être comédien, je rêvais d'être cosmonaute. Enfin, je rêvais d'aller sur la Lune, de faire des choses extraordinaire. J'avais envie d'avoir une vie différente parce que je me sentais un peu différent. Mais différent, pas forcément dans le bon sens. Je me sentais un peu à côté. Et quand on a des copains de cet âge-là, quand on est ado, quand on n'est pas dans le rang, quand on n'est pas comme tout le monde, mais tout de suite, vous êtes mis un petit peu sur le banc. Que ça soit physiquement, que ça soit par rapport à vos envies, votre manière de parler, votre manière d'être. Et donc, je rêvais de ça, effectivement. Je rêvais d'être pilote de course et comédien, et effectivement, je suis devenu pilote professionnel pendant 15-20 ans.
Oui, alors vous avez été vice-champion du Benelux en Formule Renault, vous avez fait le championnat Procar, champion de Belgique, enfin, des tas de courses que vous avez gagnées.
Oui, et puis je suis arrivé jusqu'à l'antichambre de la F1, en Formule 3000. Donc c'était vraiment, j'étais au bout du rêve que je nourrissais quand j'étais enfant. Et j'en suis très heureux aujourd'hui parce que après j'ai embrassé la carrière de comédien et c'était cet autre rêve et ces deux univers qui sont très fermés. Donc le fait d'avoir pu accéder à tout ça et d'en vivre et d'être heureux dans ces univers respectifs, c'est particulier.
Oui, et il y a qu'une chose qui vous intéressait pas vraiment, Stéphane de Grotte, c'est l'école. Je crois que vous n'avez aucun diplôme.
Alors j'ai strictement aucun diplôme. C'est pas que ça m'intéressait pas, c'est que j'étais incapable d'apprendre quoi que ce soit. La théorie et moi, ça fait pas bon ménage. Mais encore aujourd'hui, je suis incapable d'apprendre quelque chose de manière théorique. J'apprends en faisant. J'apprends en me plantant. D'ailleurs, quand on se plante, ça repousse.
Oui.
Donc,
pas toujours.
J'ai aimé semer tous ces plantages et j'ai vraiment appris de ces échecs non seulement, mais j'ai appris. C'est en regardant, en écoutant, c'est en mettant les sens en éveil, mais jamais en mettant une théorie. D'ailleurs, aujourd'hui, je sais toujours pas ce que c'est qu'un adverbe. J'écris et je ne sais pas comment j'écris et ce que je fais.
Ce qui est important, c'est que vous écriviez. Je repense à la course automobile, parce que comme vous êtes belge, vous êtes né à Bruxelles, il y a un autre pilote célèbre, mais de la BD, qui est Michel Vaillant.
Oui.
Et ce qu'on ne sait pas, c'est que Jean Graton a commencé Michel Vaillant, tout simplement parce qu'il venait de Nantes, il travaillait chez un éditeur et qui s'occupait de la course automobile en Belgique.
Ah bon ?
Ça l'a passionné. Et un jour, il entend par la fenêtre un garçon qui appelait son fils Michel. Et c'est comme ça que le nom de Michel Vaillant est né.
Ah, j'ignorais. Et alors, je connais son fils Philippe
Graton, qui fait beaucoup de photos.
Exactement, et qui est basé à Bruxelles.
Exactement. Où son père vit toujours d'ailleurs à 96 ans.
Exactement. Et je rêvais, moi, d'être pilote parce que je voyais. Alors, j'ai eu envie d'être pilote via d'autres personnes, mais le personnage de Michel Vaillant qui portait toujours des polos, j'ai toujours eu envie de porter des polos bleu marine parce que je voyais Michel Vaillant avec son polo bleu marine.
Et pour payer votre école de pilotage, je crois que vous avez vendu des raviolis dans les restaurants.
Alors, quand j'avais 18-19 ans, effectivement, j'adorais, j'aime toujours faire la cuisine, je faisais des pâtes que j'allais vendre à gauche, à droite pour récolter un peu de sous. Et avec cet argent-là, je me suis acheté mon premier équipement de pilote, alors que je n'avais pas encore la moindre voiture de course. et je mettais mon casque et ma combinaison et je me mettais dans ma baignoire pour avoir l'illusion d'être dans le baquet d'une monoplace.
Vous étiez déjà dans le bain, autrement.
J'étais effectivement dans le bain, mais j'étais déjà dans une perspective de comédien, de jouer. C'était mon costume de jeu, en fait. Parce que entre la course et le métier d'acteur, on m'a souvent demandé quelles étaient les similitudes. Et en fait, la piste, c'est un plateau. C'est un lieu où on peut se produire en spectacle. Puis il y a des tribunes, il y a des spectateurs, il y a l'adrénaline. Quand le feu passe du rouge au vert, au théâtre, quand le rideau se lève, c'est le même processus. Donc il y a beaucoup de liens, en fait.
Oui. Et il y a quelqu'un qui a compté pour vous, c'est un pilote belge, Eric Van de Poel, qu'on ne connaît pas forcément bien en France.
Alors lui, il a eu une carrière assez formidable, parce qu'il a fait de la Formule 1 aussi, il a fait deux saisons de Formule 1.
Et 5 victoires aux 24 heures de Spa.
Oui, c'est un grand pilote belge. Et je l'ai rencontré dans une école de pilotage où, pareil, je connaissais personne, sauf Eric, qui est venu à ma rencontre, parce qu'il avait gagné le volant l'année d'avant. Gagner un volant, ça veut dire que vous passez toutes les épreuves et puis vous recevez une saison complète payée par l'annonceur. Et c'est lui qui m'a pris par la main et qui m'a fait découvrir l'univers de la course, de l'intérieur, les rapports avec les sponsors, les rapports avec les constructeurs, avec les teams. Donc j'ai appris beaucoup à ses côtés. Mais le premier pilote qui a pu me marquer, c'était Jacques X, qui est l'un des plus grands pilotes au monde.
Exactement.
Qui est le plus grand pilote belge. Jacques X, qui est un mythe vivant. Et quand je le voyais, j'étais petit, j'étais sur la plage de Knokke-Lozout, parce qu'il était là-bas, je le voyais avec sa famille. Il ressemblait, il me faisait penser à Jackie Kennedy, parce qu'il avait cette espèce de gueule, d'allure, d'élégance qui me faisait penser effectivement à cette espèce de vie à l'américaine que pouvaient incarner les Kennedy. Et des années plus tard, d'ailleurs, j'ai appris à sa fille Vanina à rouler, à piloter. Donc j'ai été son premier instructeur. Donc la boucle était bouclée.
Voilà. Pour votre information, pour ses 75 ans, Porsche a fait une voiture spéciale Jackie X avec sa signature.
Oui, et avec la couleur de son casque.
Exactement, vous êtes bien renseigné. Bon, moi j'ai aussi d'autres renseignements sur vous, on en parle dans quelques instants à travers une autre date, le 7 novembre 2013. A tout de suite sur Sud Radio avec Stéphane de Groot.
Sud Radio, les clés d'une vie, 13h20, 14h, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Stéphane de Groot. Il y a le théâtre de la Renaissance, on en parlera tout à l'heure avec un amour de jeunesse. Mais là, on vient à une date importante pour vous et pour ceux qui aiment les livres et l'humour, c'est le 7 novembre 2013. Sortie d'un livre qui s'appelle Voyage en absurdie.
Alors non seulement c'est la sortie d'un livre, mais c'est la sortie de l'ombre de ma pomme.
Oui, oui.
C'est une histoire assez surréaliste, c'est-à-dire que mes chroniques sur Canal dans le supplément avec Maïtena Birabène commençaient à vraiment bien fonctionner. Et dans la foulée, Muriel Beyer, éditrice, me convoque dans son bureau. À l'époque, elle était chez Plon. Je me retrouve dans un bureau d'éditeur, ce que je n'avais jamais expérimenté avant. Et c'était Place Saint-Sulpice, donc vraiment une vieille maison, comme on l'imagine. Et elle me dit, voilà, je voudrais éditer vos interventions de Canal. On signe le contrat et elle me donne une avance sur recette qu'on fait aux jeunes auteurs, enfin à n'importe qui, oui. N'importe quel auteur. Mais l'avance qu'elle me donne est équivalente à 2-3 000 ventes de livres. Et je oui. trouve ça déjà énorme parce que je ne suis pas encore très connu. Et je lui demande d'ailleurs si j'en vends 500 ou 600, si je dois lui rembourser la différence. Et bah, l'histoire fait que quelques semaines plus tard, quelques mois plus tard, on arrive à une vente de 350 000 exemplaires. Et c'est une des meilleures ventes de l'année. Et je suis... D'abord, je comprends pas très bien ce qui m'arrive. Et puis, je vois l'impact que ça peut représenter de vendre autant de livres et l'exposition. Et ça m'a transporté dans une autre dimension, avec un autre statut. Et ma carrière, ma vie, a vraiment pris une autre tournure à ce moment-là.
Et ce qu'on sait peu, c'est que Voyage en absurdie, en fait, il y a eu un livre en Belgique, à Bruxelles, en 1946, d'un certain Harouet, un caricaturiste, qui a sorti ce livre en se moquant des travers de l'époque et du général de Gaulle.
J'ignorais totalement.
C'est le même livre à Bruxelles, aux éditions du Soleil.
Ah ben écoutez, vous me l'apprenez.
Bon, alors, c'est vrai que vous avez ce style d'humour un peu absurde. C'est né comment, c'est tout ça, Stéphane?
Alors, il est complètement absurde. Je revendique cette absurdité, cette absurdie. C'est d'abord, je pense que je ne peux pas faire autrement.
Oui, personne n'est parfait.
Voilà, exactement. Heureusement d'ailleurs.
Oui.
Mais d'ailleurs, je n'aime pas ce qui est parfait. Je prends toujours les choses de biais. Je trouve ça plus intéressant d'avoir un prisme de côté. Moi, un train, je le vois pas. Si je vois un train de face, je le vois pas. Donc je me mets sur le côté. Et là, je vois les wagons. La montagne, j'ai besoin d'être dans la vallée pour la voir.
On voit. Ça vous empêche mieux. Pas d'aller au sommet?
Non, mais il y a pas de sommet.
Oui.
C'est-à-dire que c'est on escalade et on escalade sans fin. si on arrive au sommet, ça veut dire qu'à un moment donné, il faut redescendre et ça, c'est moins drôle. Donc, il n'y a pas de sommet. Mais il y a la perspective de marcher, d'aller quelque part, je ne sais pas où, mais d'y aller. Et l'absurde aussi, c'est une manière... D'abord, je trouve que c'est très ancré dans le réel, l'absurde. C'est tout sauf n'importe quoi. C'est au contraire une espèce d'acuité sur la réalité des choses, mais c'est de la voir autrement, c'est de la réinventer. Mais moi, j'ai toujours eu envie de réinventer ça. J'ai eu envie d'inventer une vérité, j'ai eu envie d'inventer des mots, en tout cas des associations de mots, et c'est venu parce que je pense que je ne parvenais pas à formuler, à écrire une phrase normalement, tout simplement.
Et vous êtes dans la lignée de Raymond Devos, de Pierre Desproges, de Pierre Dac, qui étaient des maîtres de l'absurde.
Alors, on me le dit, j'en suis très honoré, évidemment, mais pour moi, ce sont des monuments. Donc, m'associer à des monuments comme Devos, qui était quand même un artiste très très complet. Il était musicien, c'était une forme de clown, il était sur scène, il pouvait tenir un public pendant 2 heures, il avait un physique, une voix, une énergie. Moi, je ne pense pas être capable de tenir un public sur scène tout seul, je ne joue pas de la musique. Donc, De Vos, c'est De Vos et ça reste De Vos. C'est une œuvre aussi magistrale, c'est un être à part. Je me sens plus proche de Vos que de Desproges. J'adore Pierre Dac, vous m'en parliez, j'adore Pierre Dac, Francis Blanche. J'écoutais les sketchs quand j'étais ado. J'étais d'ailleurs plus accro à Francis Blanche, à Pierre Dac qu'à Raymond De Vos. Raymond De Vos, je l'ai compris plus tard. Et puis surtout, moi, ma manière d'écrire et l'absurde et le jeu des mots, je l'emprunte davantage à la musique qu'à l'écrit. Pour moi, c'est une sonorité. C'est faire les mots, pour moi, sont comme des notes. Oui. Et donc, c'est une partition que j'essaie de mettre en place.
Ce que faisait De Vos aussi avec les mots. Alors, il avait une astuce, je ne sais pas si vous le savez, pour répéter ses sketchs. Il dînait avec des gens, je l'ai vu plusieurs fois. Il faisait le sketch dans le restaurant pour les clients. Et quand ça marchait, je l'ai vu se mettre par terre plusieurs fois dans les restaurants pour voir si ce sketch marchait.
Mais c'est pas du tout étonnant, parce qu'il faut éprouver les choses. Il faut, vous savez, quand on écrit aussi un scénario de film, on essaie de le raconter à beaucoup de gens de ses proches pour le raconter. Et en le racontant aux autres, on se le raconte à soi-même. Et je pense que De Vos, il se le racontait à lui-même aussi.
Exactement. Et il évoluait.
Voilà.
Et puis, vous avez quand même un autre maître qu'on a un peu oublié, hélas, et qui avait fait une recette de crêpes.
J'ai un violon grinde, un dada, et mon dada, c'est la cuisine. Surtout
Pierre
la cuisine.
Pierre Crêpe, qui était le bafouilleur génial des années 60, qu'on a vu à l'Olympia aux Trois Baudets, et c'est pour vous un maître aussi.
Mais ce qu'il fait là, c'est une vraie prouesse technique. C'est très drôle, ça passe pour un dialogue très naturel, un monologue très naturel, alors que c'est très compliqué à faire. Et de nouveau, moi, quand j'étais petit, Pierre Rep, j'étais totalement fan. Et ce qui me surprend, parce que j'en ai parlé dans pas mal d'interviews, et quand on en parle aujourd'hui, personne ne se souvient de Pierre Rep.
Et moi, je me souviens l'avoir interviewé, et ce qui est terrible, comme il bafouillait, à la fin de l'interview, vous bafouillez aussi.
Magnifique.
C'est terrible. Et alors, il y a quelqu'un aussi que vous ne connaissez pas dans le même genre, et je suis convaincu que si vous connaissez cette chanson, ça vous toucherait.
Il avait l'habitude en parlant de mettre sa langue dans le baba, dans le baba des
dents. Le Moumou Samoureux, vous ne connaissez pas.
Pas du tout.
Alors c'est une chanson des années 70 qui a été un immense succès d'André Valtier, un comédien qui a fait 2 films et qui a fait le Moumou Samoureux, et tout est à double sens avec un bafouillage à la Pierre Rep.
Ah oui, non, je ne connaissais pas du tout.
Ça a été un immense succès, le type a totalement disparu et cette chanson, il était numéro 1 au hit parade avec le Moumou Samoureux.
Jamais entendu.
Eh ben voilà.
Jamais entendu. Il y a un autre Pierre que j'aimais beaucoup aussi, c'est Pierre Péchin.
Bien sûr. Qui à ses débuts, se baladait avec une laisse et pas de chien parce qu'il n'avait pas les moyens d'acheter un chien.
Magnifique.
Il avait acheté la laisse. C'était extraordinaire. Et on vous doit aussi, Stéphane de Groot, le retour de la contrepétrie. Car ça aussi, c'est un art difficile que vous avez remis au goût du jour.
Alors, je vais être très honnête avec vous. Hein. Quand on m'a dit ça au début, je ne sais pas ce que c'est qu'une contrepétrie.
Oui.
Je ne sais pas.
Eh ben, on transforme un mot pour en donner, c'est Rabelais qui a lancé ça, pour donner un sens un peu grivois. Par exemple, folle à la messe, ça fait...
Voilà. Mais, alors maintenant, je sais ce que c'est. Mais quand j'ai démarré ça, je ne savais pas. Je me suis retrouvé un jour à côté d'Alain Rey, grammairien... Oui. Formidable. Et il m'a expliqué de manière pratique, théorique, la manière dont j'écrivais. Donc il m'a fait toute une définition, une démonstration de ce que je faisais. et je n'ai absolument rien compris à ce qu'il me disait. Mais ça avait l'air assez technique ce que je faisais, mais je vous disais, la théorie, je n'ai aucune maîtrise, aucune prise là-dessus. Mais lui avait analysé la chose. Donc un adverbe, je ne sais pas ce que c'est par exemple.
Non, mais enfin, vous avez d'autres qualités, notamment les qualités de comédien. Et alors, vous avez commencé au cinéma, et vous avez commencé par des pubs en Belgique. Comme de Funès d'ailleurs, qui a commencé ici par des pubs. Vous avez fait beaucoup de pubs, notamment vous étiez banquier souvent, vous avez fait des pubs pour Carrefour.
J'ai un réalisateur qui est devenu un ami, qui s'appelle Yvan Goldschmidt, et qui me voyait en interview sur les circuits, et il se disait, mais ce mec, il est particulier, je vais lui proposer de passer un casting, je sais même pas du tout s'il est comédien, pour faire des pubs. Et donc il m'a embarqué, c'est la première fois que je me suis retrouvé devant une caméra avec cet Yvan, et j'ai fait plein de pubs effectivement, et puis il m'a emmené pour faire un court-métrage. J'étais le seul non-comédien de la bande, un court-métrage qui a eu plein de prix. Ensuite, voilà, c'est une des premières personnes qui m'a fait confiance pour être devant une caméra.
Voilà, et ensuite il y a une série qui a commencé en Belgique sur Canal et qui a eu du succès en France, et elle vous doit beaucoup, c'est Fil dans ta chambre, Stéphane de Groot.
Oui, j'avais un ami qui venait d'avoir un premier enfant qui grandissait, et il me faisait part des questions pertinente de cet enfant qui se demandait pourquoi la neige était blanche, pourquoi la terre était ronde, pourquoi la pluie ça tombait. Et je me suis dit, mais ce sont des questions auxquelles les parents ne peuvent pas toujours répondre. Et donc je les ai répertoriées, puis j'en ai inventé moi-même. Et c'est devenu une série qui s'est appelée Fil dans ta chambre, que j'écrivais avec Odile d'Outremont. Et j'avais une cassette VHS d'un pilote. J'ai tourné un pilote, tout simple. C'était d'ailleurs, dis papa, c'est quoi la guerre de 100 ans? Et puis je délirais là-dessus. Puis je suis arrivé chez France Télévisions avec ma cassette VHS, sans rendez-vous, en venant de Bruxelles. La réceptionniste m'a demandé avec qui j'avais rendez-vous. Et donc je lui ai dit qu'effectivement, je n'avais pas de rendez-vous. Donc pendant un quart d'heure, la situation était un petit peu particulière parce qu'elle m'a dit, il faut pas rester là, monsieur. Et j'ai dit, mais je voudrais montrer ça à la responsable des programmes. Quel responsable? Alors il y en avait quand même 250. Et pour finir, enfin c'était ubuesque, pour finir il y a une dame qui a eu la gentillesse de regarder ma cassette, et puis on est arrivé dans le bureau, il y a trois services différents qui sont venus se pencher sur mon berceau, et un mois plus tard j'ai un producteur qui m'appelait en disant, ben voilà, file dans ta chambre, on va le programmer. Donc ça a été programmé sur France 2, puis sur Canal+, puis à l'RTB en Belgique, et au final on a fait 170 épisodes de file dans ta chambre.
Qui a été un véritable succès. Vous avez aussi une particularité, vous n'avez jamais été à Cannes Palme d'Or, mais vous avez passé 15 ans à Cannes, dans les coulisses, parfois à 50 km au Festival de Cannes.
Oui, j'étais... Mais de nouveau, moi j'étais bercé par tout ce monde-là que je ne connaissais pas. Et d'ailleurs, la première année, je voulais approcher, je crois que j'ai jamais raconté cette histoire, mais je voulais approcher Laetitia Casta, qui était... Oui. Pour moi, jeune homme d'abord et apprenti comédien, je voulais l'approcher. Et j'ai rapatrié de nouveau un copain avec une caméra. Je lui ai dit, on va aller l'interviewer et se faire passer pour des journalistes, alors que je ne l'étais pas du tout, juste pour avoir la chance de l'approcher. Et on est parti de Bruxelles en voiture. J'ai logé dans un hôtel Formule 1 qui était à 20 bornes de Cannes. Et on a bravé la foule, on a fendu la foule pour finir arriver devant la porte de l'ascenseur de Casta. Et j'étais tellement impressionné que une fois que j'étais devant elle m'a dit, mais quelle est votre question? Et j'ai dit, qu'est-ce que vous aimeriez que je vous pose comme question? Elle m'a dit, je ne sais pas. Et donc elle est montée, elle a pris son ascenseur, et puis je l'ai plus jamais revue. Enfin, je l'ai revue des années plus tard, mais avec une tête qui n'avait rien à voir avec celle que j'ai aujourd'hui, donc elle ne m'a pas reconnue.
Et vous avez aussi un jour pris un faux accent pour qu'on vous raccompagne à 45 km de
Mais de comment Cannes. Savez-vous ça? C'est toujours avec ce même copain. On avait un appartement qui était à 30 bornes de Cannes, et à 10h30 du soir, il y avait plein de voitures, plein de chauffeurs qui attendaient les invités du festival. Ils attendaient que les invités sortent de la projection, et je me suis fait passer pour un jeune producteur russe qui parlait pas du tout français, et il fallait que j'étais sorti de la projection, il fallait me ramener chez moi, et on s'est retrouvé avec un chauffeur qui a cru à l'histoire et qui m'a ramené à 30 voilà. bornes de là. Oui,
et moi j'ai fait le coup comme ça avec Jean Sache, qui était un homme qui faisait le char à blabla.
Mais j'allais vous parler de Jean Sache. Oui,
et un jour on appelle au Festival de Cannes, Gilles Jacob, je fais croire qu'un journaliste russe veut l'interviewer, patron du Festival de Cannes. Jean Sasse arrive, interview Gilles Jacob avec son faux accent, le charablabla, a réussi à lui faire chanter « Maman les petits bateaux » et à l'embrasser sur la bouche. La séquence est passée à la télé, on a été fâchés avec Gilles Jacob pendant 20 ans.
Ah oui ?
Ah oui.
Ah oui, à ce point-là.
C'est le genre de choses qu'on ne peut plus faire à Cannes aujourd'hui.
Non, il y a plein de choses qu'on ne peut plus faire, mais il y a d'autres choses qu'on peut encore faire malgré tout, mais pas ça.
Voilà, et vous faites bien d'autres choses, on en parle dans quelques instants avec une autre date, le 6 février 2020. A tout de suite sur Sud Radio avec Stéphane de Groot.
Sud Radio, les clés d'une vie, 13h20, 14h, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Stéphane de Groot. Donc on a parlé de la course automobile, on a parlé de comédie, mais on n'a pas encore parlé de théâtre. Et depuis le 6 février 2020, au Théâtre de la Renaissance, vous êtes la tête d'affiche de Un amour de jeunesse avec Isabelle Gélinas. Et vous êtes un riche qui fait croire qu'il est pauvre.
Oui, c'est ça. C'est que j'étais marié 25 ans auparavant avec Olivia Cotte. Et ce que j'avais oublié, mon avocat me rappelle ça à mon mauvais souvenir. Et ce qui veut dire qu'elle peut prétendre à la moitié de ma fortune. Et oui. Donc, comme elle veut se remarier, elle a besoin de divorcer. Donc, elle débarque chez moi. Et donc, je me dis que si elle voit tout ce que toute ma fortune a accumulée depuis que j'ai réussi dans les affaires, je lui dois la moitié. Donc, je vais lui faire croire que je n'ai rien et emménager chez ma femme de ménage. Et donc, on va la recevoir chez ma femme de ménage avec ma femme. Et c'est très drôle parce que d'abord, on se moque de nous-mêmes, surtout. Et puis c'est de pouvoir mettre un nez rouge. En fait, on joue la comédie, on joue le rôle d'un personnage, et dans cette pièce, on joue le personnage d'un personnage. Donc c'est très excitant à interpréter.
Oui, et puis c'est un sujet qui nous touche tous. C'est l'idéal de jeunesse.
C'est non seulement l'idéal de jeunesse, c'est aussi moi ce qui m'intéresse dans cette pièce. Enfin, il y a une phrase dans la pièce qui résume tout. C'est ma femme Isabelle Gélinas me dit. En fait, ce qui est con, tu te rends même pas compte que tu as beaucoup d'argent et que tu as peur de perdre cet argent. Tu as peur de manquer alors que tu as beaucoup. Et c'est un peu le travers de ce que des gens aujourd'hui. On a peur de. C'est vrai qu'on a peur de manquer. Et le paradoxe, c'est que moins on a d'argent, plus on est généreux.
Voilà. Et c'est aussi une comédie qui rappelle que la personne qu'on était à 20 ans n'est pas forcément celle qu'on devient.
C'est dommage. Aussi, parce que je pense qu'il faut être il faut nourrir ses rêves. À 20 ans, je pense qu'il faut se projeter quelque part. Et puis ça devient une quête de vie. C'est d'essayer de ressembler à celui qu'on a rêvé d'être. C'est une quête. Moi, c'est pas pour rien que je suis fan de Brel, parce qu'il a cette vision-là dans son discours, dans sa chanson, dans sa manière d'être. Et d'ailleurs, la quête, sa chanson, il y est pour beaucoup. Moi, j'étais très sensible au discours de Brel. Et il parle d'ailleurs de cette enfance après laquelle on court en permanence. Donc, moi, je trouve qu'il faut essayer d'être fidèle à ses idéaux de jeunesse. Et à ses rêves d'enfant.
C'est ce que vous êtes, c'est ce que vous faites.
C'est ce que je me suis efforcé de faire. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est un rêve éveillé. Et j'en suis très heureux parce que je fais exactement ce que j'ai voulu faire. J'ai fait de mes rêves, j'en ai fait ma vie.
Voilà. Alors, dans cette pièce, en même temps, ça touche tout le monde. D'abord, on rit beaucoup, mais ça touche tout le monde parce qu'on peut tous se retrouver, pas forcément pour l'argent, face à ce problème-là.
On peut se retrouver face à... Après, c'est la manière dont on gère les choses. On peut se retrouver dans ces situations-là, tout le monde. Après, comment allons-nous réagir ? Avec qui allons-nous pouvoir gérer ce genre d'histoire ? C'est aussi intéressant, à ce moment-là, de se dire qui est à côté de nous. La femme qu'on a ou l'homme qu'on a, à un moment donné, ça devient un coéquipier. Ça doit être un coéquipier pour prendre les bonnes décisions. C'est important dans la vie, c'est d'avancer et de choisir, d'être conscient qu'on a les bons amis ou les bons partenaires. On avance à deux, au minimum. Déjà, avec soi-même, on est deux. Donc, il faut avancer à trois, en fait, avec l'autre.
Exactement. Alors, effectivement, vous êtes un maître de l'absurde, mais il y a une rigueur totale dans cette pièce et dans ce que vous faites qui est nécessaire. C'est-à-dire que c'est vraiment la concrétisation de la vie, même si on est dans l'absurde.
Mais l'absurde, c'est quelque chose qui est totalement, qui doit être maîtrisé, qui vient du réel. C'est juste d'aller ailleurs d'une autre manière. Mais il y a un point de départ, il y a un point d'arrivée. Si vous n'avez pas ce segment-là, vous vous perdez vous-même et vous perdez les autres. Il faut qu'en permanence, on puisse se projeter. On parlait de Raymond Devos, dans ses histoires, ça part très très loin, mais il y a toujours un fil. on visualise ce qu'il nous raconte. Certes, ce qu'il nous raconte est particulier, mais on le visualise. Parce que sinon, ça devient l'anarchie. S'il n'y a pas un cadre, ça devient n'importe quoi. Le peintre, Picasso, il fait des choses dans son cadre assez singulières, mais il y a un cadre. Il y a un format, il y a des codes. Il n'y a rien à faire, il faut toujours des codes. Et l'absurde répond à ces codes-là. Donc, et la comédie, pareil. La comédie, c'est quelque chose c'est une mécanique, c'est une horlogerie qui doit être très précise. C'est un timing, c'est de la musique, ce sont des notes. Et une seconde plus tôt, une seconde plus tard, la chose n'est plus drôle.
C'est ce que faisaient d'ailleurs les Branquignols avec Robert Derry. Un jour, un comédien a changé une réplique, mais il a piqué une crise énorme parce que c'était une mécanique absolue. Et c'est pour ça que ça marchait et que c'est devenu le spectacle favori de la Reine d'Angleterre.
Ah ben voilà. Et vous enlevez une petite couronne dans une montre et la montre, elle ne fonctionne plus.
Exactement. Alors, le théâtre, pour vous, ça a commencé non pas dans des cours...
Je vais vous faire une petite remarque parce que cette petite roue dans la montre, ce petit quelque chose, ce petit grain de sable qui va tout changer. En fait, j'ai compris ça un jour. Je conduisais ma voiture de course. Je ne la pilotais pas et je ne gagnais pas de course. Et j'ai un pilote qui m'a dit, mais si tu réalises bien, ça ne dépend que d'une petite chose. Pour une seconde, tu vas être premier sur la grille départ ou tu vas être dernier. Et cette seconde, si tu réfléchis bien, sur ce circuit, il y a 10 virages. Si tu gagnes un dixième de seconde, ce qui est rien, un dixième de seconde par virage, fois 10, ça va faire une seconde. Donc pour un dixième dans un virage, tu vas passer de premier ou de dernier à premier. Et c'est tout con comme réflexion. Mais ce petit détail, je me suis dit au fond, pour être différent des autres, pour essayer de performer, il faut ce petit détail. Et à partir de là, tout ce que j'ai fait, j'ai pensé à ce petit détail qui change tout.
Et ce petit détail qui permet justement de donner aussi du rythme à une pièce de théâtre.
Oui.
Une seconde de trop et c'est fini.
Mais on ne se rend pas compte, mais la comédie ne répond qu'à ce genre d'exigence. Et quand on voit les maîtres de la comédie, je pense à Francis Weber qui a fait quand même beaucoup de réaliser beaucoup de comédies, il était absolument obsédé par ça, par le détail, la seconde près, le mot au bon endroit, la bonne intonation. En fait, il n'y a pas de secret, ce n'est que ça.
Bah, dès qu'il y a 5 secondes qui sont en trop dans un film, il coupe Weber. Et dès qu'il y a une réplique qui se dit « je pense que le public va la deviner », il met autre chose.
Tout à fait.
C'est la bonne solution. Alors, j'en reviens au théâtre parce que effectivement, vous n'avez aucun diplôme et vous n'avez pas fait de cours de théâtre, vous avez commencé dans les ligues d'improvisation,
oui.
Stéphane de Groot.
C'est la plus grande formation que j'ai pu avoir parce que l'improvisation, déjà, c'est une manière de se rendre compte qu'on a de l'imagination, qu'on peut raconter des histoires. On ne se rend pas compte de ça au départ. Et moi, le premier coach que j'ai eu, qui s'appelle Marie-Paul Kums, qui est une formidable comédienne belge, m'a appris ça. Elle m'a donné confiance en moi en me disant, mais il suffit de alors on est dans les clés d'une vie dans cette émission, mais il suffit de fabriquer des clés pour fabriquer des serrures et fabriquer des portes dans ton imaginaire. Et puis tu vas pouvoir ouvrir toutes ces portes et aller quelque part à un endroit où tu n'as jamais été. Et elle m'a aidé à aménager tout ça. Et une fois que vous êtes dans cette mécanique-là, effectivement, vous ouvrez des portes et vous allez dans votre imaginaire inventer des histoires, vous autorisez surtout à les inventer. Et une fois que vous avez passé cette étape-là, le jour où vous commencez à raconter des histoires sur une patinoire, parce que ça s'appelle une patinoire, la scène d'impro, là, vous devez, face à votre adversaire, raconter une histoire sur base de rien. C'est-à-dire que vous devez aménager un décor, vous devez écrire un scénario, vous devez appréhender le public, vous devez gérer le temps qui vous est imparti. Et donc, c'est une formation formidable. Et pour la comédie, mais pour la vie de tous les jours. C'est-à-dire que là, maintenant, nous parlons tous les deux. Si vous me dites quelque chose, d'abord, je vais vous écouter avec deux fois plus d'attention, suite à mon expérience d'improvisation. Donc, je vais choper tout ce que vous me dites. Je vais vous regarder aussi de manière très attentive. Et sur base de ça, je vais pouvoir rebondir. C'est de prendre chez l'autre les éléments pour en faire quelque chose à votre profit.
Et je précise, Stéphane de Groot, que ce qui s'appelle une patinoire, la scène d'improvisation, c'est parce que c'est né au Québec. La Ligue d'improvisation est née au Québec. Il y avait des matchs de hockey qui faisaient l'attention de tout le monde. Deux amoureux de théâtre ont fait sur un terrain de hockey un match de théâtre et c'est comme ça que ça a commencé.
Mais je vois que vous êtes tout à fait bien informé.
Ouais. Alors, vous travaillez aussi avec votre petite équipe. Il y a eu Yvan Calberac, qui est le metteur en scène, auteur de cette pièce. Vous aviez déjà travaillé avec lui. Vous avez travaillé avec Mathieu Delaporte et avec Alexandre de la Patelière. Vous avez vraiment créé votre clan, j'ai l'impression, Stéphane.
Alors, ça se fait naturellement. Vous savez, le théâtre, c'est un véritable investissement en termes de temps, en termes d'énergie, en termes d'organisation familiale, parce que moi j'habite à Bruxelles, donc ça veut dire que je vois moins mes filles. Donc pour choisir une pièce, il faut vraiment être en confiance avec les gens qui vous proposent le projet. Et ici, j'aime beaucoup l'univers d'Yvan Calberac, j'aime ce qu'il est, C'est un homme qui est très simple, en fait. Moi, j'aime travailler avec des gens qui sont normaux dans ce métier. Déjà qu'on fait des choses assez anormales, donc il est bien de travailler avec des gens qui ont bien les pieds sur terre. Et Mathieu et Alexandre de la, Mathieu Delaporte et Alexandre de la Patellière, c'est pareil. C'est des gens dont j'aime l'univers, j'aime la manière de fonctionner. C'est devenu des amis. Et quand ils m'ont proposé leur pièce il y a 3 ans, c'était Tout ce que vous voulez, Édouard VII avec Bernice Béjot, c'était un vrai cadeau, j'étais très honoré de ça. Ici, quand Yvan m'a proposé sa pièce, c'était pareil, j'avais envie de me projeter dans son univers, et puis quand il m'a dit que c'était avec Isabelle Gélinas, que j'avais vu de loin, et je devinais que c'était une personne avec qui j'allais bien m'entendre sur scène, et puis surtout c'est une comédienne formidable, et Olivia Cotte qui complète ce casting, c'est quand on vous propose un projet comme ça, avec des gens que vous aimez bien, avec un texte qui vous fait beaucoup rire dans un théâtre de la Renaissance qui est magnifique, et qu'on a toujours voulu être comédien et jouer au théâtre, tous les éléments sont réunis pour considérer que tout ça, c'est un beau cadeau.
Théâtre de la Renaissance, où a été créé Ruy Blas de Victor Hugo en son temps, donc c'est quand même pas n'importe quel théâtre, effectivement, Stéphane de Grosse.
Non, mais on sent que ce théâtre vibre de tous ces grands moments, que ce soit des pleurs, des rires, on en parlait avec Isabelle encore récemment. Ces théâtres-là, c'est des endroits vraiment empli d'une âme porteuse, et c'est ça aussi qui fait la magie du théâtre, c'est qu'on prend le relais d'autres comédiens et comédiennes qui ont sévi dans ces lieux.
Alors, vous faites beaucoup de choses, Stéphane de Grotte, mais ce qui est très important pour vous, c'est une seule chose à la fois. Plus question de faire de la radio quand vous faites du théâtre, et réciproquement.
Alors, il fut un temps où... Alors, il se trouve que j'ai toujours eu la chance d'avoir des aptitudes qui me permettaient de faire un peu tout, pas trop mal. Dans des univers très différents. Mais à un moment donné, je faisais tout. Mais je faisais tout parce que j'avais besoin de gagner ma vie. Et puis c'est en faisant que je voulais savoir si j'étais bon ou pas, si j'avais envie de faire ça. Je touchais vraiment à tout. Et puis j'étais très gourmand, boulimique. J'ai toujours été boulimique. Et donc je faisais du théâtre en amateur. J'écrivais des articles pour les journaux. Je vendais mes raviolis. Je faisais de la pub. Je faisais de la course. J'ai fait bien d'autres choses, mais il faudra encore 2 heures d'émission pour que je vous raconte tout
ça.
On
vous accueillera, vous inquiétez pas.
Et donc les gens à l'extérieur avaient du mal à me cerner. Et puis quand j'ai eu la chance d'émerger un peu, je me suis rendu compte d'abord qu'il fallait que je fasse le tri dans tout ça, que je pouvais être rassuré sur les opportunités qui s'offraient à moi. Et donc j'ai beaucoup élagué et je me suis mis à travailler. Je pense que j'avais un peu de talent, mais je travaillais pas. Et de nouveau, c'est ce que Brel disait, le talent, c'est rien d'autre que d'avoir envie de faire quelque chose. Et le reste, c'est du travail.
Voilà, 90% de travail, disait-il.
Mais ça, je l'ai compris plus tard. Et j'ai vraiment commencé à travailler quand j'ai débarqué sur Canal avec mes chroniques, où je travaillais comme un fou mes papiers. Je faisais une semaine de travail pour un papier. Donc là, j'ai vraiment beaucoup bossé et ça a été payant, puisque tout ce qui s'est passé depuis, Canal, ça a changé ma vie, en fait.
Bien sûr. Et Brel, pour votre culture personnelle, il avait un chevalet. Il travaillait debout derrière le chevalet pour souffrir pendant 18 heures, comme les textes de ses chansons.
Ah bon ?
Oui, c'est comme ça qu'il avait l'inspiration.
Ah ben, merci de cette information.
Alors, pour l'instant, c'est le théâtre, il y a toujours le cinéma. Il y a un livre, les livres des mots, avec vos pensées, encore une fois, et dédié au Goncourt que vous n'aurez pas, Stéphane.
Oui, et réciproquement.
Oui.
Oui, alors, livre de mots, c'est... Moi, ça fait 2-3 ans que je note tout le temps dans ma douche, dans le métro, en me baladant. Je note des pensées, des idées qui me viennent. Et puis, mon éditrice, que j'ai failli rendre éditriste à force de trop méditer, parce que je cherchais l'idée, elle m'a dit « Mais moi, je suis preneur de tes pensées, de tes aphorismes, de tes dédicaces qui occupent la moitié de mon livre. » Et c'est comme ça qu'est né Livre de mots. D'ailleurs, Livre de mots, le titre, j'étais dans ma douche et je me dis, tiens, voilà, en fait, le titre parfait, c'est Livre de mots, mais ça existe sûrement. Et en fait, il y a comme ça plein de phrases dans le bouquin, des pensées, des espèces de comment dirais-je
de formules.
Ouais, de formules, voilà. Où je me disais, tiens, ça existe déjà. Et en fait, non. Ça me semblait évident de poser ça sur le papier et j'en suis très heureux parce que c'est un livre très intime, très personnel où j'exprime des choses parfois philosophiques, parfois graves, parfois légères. J'adresse des mots à des gens proches de moi ou à des gens que j'admire mais que je ne connais pas. Ça a été l'occasion de me balader à travers les mots, à travers les gens dans ce livre. J'y tiens beaucoup, moi, à ce livre.
Oui. Alors je précise que ça s'appelle Livre de mots L'IVRE, ce qui démontre que c'est un grand cru, effectivement.
Ah ben je vous remercie.
Alors cette pièce, donc, je le rappelle, Un amour de jeunesse est à la Renaissance. Je précise que c'est du mardi au samedi à 21h et le samedi et dimanche à 16h30.
Alors le dimanche, il n'y a que deux dimanches où on joue en matinée.
Ouais, mais ça suffit largement déjà.
On est d'accord.
Et comment on tient le rythme justement? On est obligé de faire que ça dans la journée ou le boulimique que vous êtes?
Mais regardez, je suis là, voilà. Ce soir je suis au théâtre, je viens d'une autre promo ce matin, je commence à écrire le scénario de mon long métrage. J'ai un projet de tournage là au printemps. Non, en fait, je fais plein de trucs. J'ai toujours eu besoin de faire beaucoup de choses. J'ai l'impression de rouler à vélo là, et si je m'arrête, je tombe.
Ne changez rien. Puis vous avez le rythme de la course automobile, vous a justement habitué à
je
tenir
pense,
ce rythme.
Je pense.
Alors donc Un amour de jeunesse. Donc c'est au théâtre de la Renaissance avec donc Stéphane de Groot, Isabelle Gélinas, Olivia Cotte, Nelly Clara et Sébastien Pierre. Et puis merci d'avoir si bien répondu à mes questions.
Merci de m'avoir convié. J'étais très heureux de parler avec vous. C'est déjà fini.
C'est déjà fini parce que ça passe très vite. Vous reviendrez
avec
parce
joie.
Que comme vous, nous parlons vrai. Merci Stéphane beaucoup. De Groot. Dans quelques instants, on va retrouver Brigitte Lahaie. Et nous, on se retrouve bien sûr demain pour d'autres clés d'une vie. Bonne journée, merci, à demain!